des histoires qui réduiront vos os en poussière et feront bouillir votre sang.
Ben c'est clair.
Alors, cramponnez-vous.
Hello, Mortimer. Ah, oh, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur.
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Pareil à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure,
ah,
vous parlez avec Tanguy.
Captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillant numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Halloween sur RVE. Réalisé par Christian, l'émission de ce soir profite de cette fête anglo-saxonne pour dresser un panorama de la BD qui fait peur. Après vous avoir proposé une sélection de titres traitant spécifiquement du thème d'Halloween, nous nous intéresserons plus largement au thème de la terreur et de l'horreur dans la bande dessinée. Ce qui nous permettra de constater que, si ces thèmes sont présents chez les auteurs européens, ils inspirent surtout leurs confrères japonais et américains. Les mangaka, en effet, bénéficient d'une absence quasi totale de censure. Quant aux artistes américains des années 50, ils ont tellement excellé dans l'horreur que l'industrie des comics a finalement décidé de s'auto-censurer en 1955 en créant le fameux Comics Code Authority. Mais je vous propose pour l'instant de nous intéresser au thème d'Halloween dans la BD franco-belge pour enfants.
J'ai vu un monstre, un Dracula à la fenêtre.
Un monstre? Eh bien, allons voir ça.
Oh mon Dieu.
Vous voyez, il n'y a rien, madame. Tout dort dans le parc.
Mais pourtant, j'ai vu un fantôme. Ses deux yeux brillaient dans la nuit et ses cris qu'il a poussés.
Quelqu'un a appelé? J'ai été réveillé en sursaut.
Ciel! Mes bisous. Vite! Mais non, madame, ils sont à leur place.
Nestor, madame Castafiore a vu un fantôme.
Un fantôme, à Moulinsin?
Oh oui, Firmin, oui.
Madame a dû faire erreur, il n'y a pas de fantôme ici. Monsieur ne les tolérerait pas.
Et moi, je vous dis, Ernest, qu'il y a des fantômes. D'ailleurs, les vieux meubles, ils les attirent toujours. Qu'est-ce que c'est, ma somme? D'où Henri XV, alors?
Oh non, madame, de Louis XIII.
Oh, c'est seulement de Louis XIII.
Tais-toi, Milou, allons, tais-toi.
C'est autour de l'an 2000 que la fête d'Halloween, surtout populaire aux États-Unis, a été lancée par un marketing plutôt envahissant en France et en Belgique. Il en a résulté un phénomène de mode qui n'a duré que quelques années, mais qui a eu le temps de toucher la bande dessinée. Principale cible des éditeurs, les enfants. En octobre 2002, Les Quatras, la bonne vieille série de Crénals et Cholet chez Casterman, proposait un 39e tome intitulé « Les Quatras et Halloween ». Dans cet album, les Quatras informés du futur braquage d'un fourgon blindé décident de surveiller discrètement les malfaiteurs. La saison d'Halloween leur offre une occasion inespérée, il suffit de se déguiser en fantôme, en diable ou en sorcière et de se cacher dans une citrouille géante pour observer les mouvements des futurs braqueurs. Malheureusement, ces malfrats ne sont pas totalement idiots et ils ont vite fait de repérer nos héros. Halloween tourne au cauchemar. Toujours à l'occasion d'Halloween 2002, le sixième tome de la série Les Crannibales chez Dupuis exploitait aussi le thème d'Halloween. On y apprenait que la fête préférée des anthropophages de Zidrou et Fournier n'était pas Noël et ses quenelles de Petit Papa Noël, ni le Nouvel An et ses poivrons au Porto. Les plus célèbres des croque-mitaines préfèrent Halloween. Ils peuvent dévorer leurs plats préférés en toute impunité. Au milieu des déguisements, qui remarquerait qu'ils s'avalent un détective aux endives ou des guiboles aux profiteroles? Également chez Dupuis, Mélusine l'adorable apprentie sorcière de Clark Clark et Gilson, est forcément à l'aise dans l'ambiance d'Halloween puisqu'elle vit au pays des loups-garous, des vampires et des fantômes. Le 8e tome des aventures de Mélusine s'intitule d'ailleurs tout simplement Halloween. Quant à la série Tuff et Koala de Riddle et Fennec publiée chez Soleil, elle propose un second tome intitulé La Maxi-Trouille d'Halloween. Écoutons maintenant Olivier Supiot, le sympathique papa de la petite Marie Frisson chez Glénat, nous expliquer comment il traite le thème de la peur dans une BD pour enfants.
Je dirais que c'est les aventures d'une petite fille qui vit dans son monde imaginaire, qui est un monde peuplé de monstres et de créatures étranges. Et c'est un peu une fable, je dirais, amusante sur la peur, quoi. Que finalement, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Ce n'est pas parce qu'on est un gros monstre gluant qu'on est forcément effrayant, quoi.
Ils sont fous ces Romains.
Marc Dacier.
Halloween est un sujet que Christophe Bertschy traite chaque année dans le quotidien suisse pour lequel il dessine les strips de Nelson. Grâce à Dupuis qui le publie en album, le petit diablotin de Bertschy a traversé la frontière helvétique pour amuser les lecteurs français. Mais au fait, Nelson est-il orange parce qu'il s'agit de la couleur d'Halloween ?
Ouais, orange c'est aussi la couleur d'un grand téléphoniste, c'est la couleur d'un tas de trucs, puis c'est une couleur qui me parle bien, qui est bien flashy, qui est bien sympa, donc c'est, voilà, c'est, ça n'a rien à voir avec Halloween.
Quelle est l'origine de la création de Nelson ?
Ben, je cherchais un petit personnage turbulent qui puisse faire des crasses toute la journée, qui puisse emmerder le monde. Et puis, ça me trotte dans la tête. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de petits chiens, beaucoup de petits chats, beaucoup de petits garçons. J'ai dit, tiens, pourquoi pas un petit diablotin qui apparaît dans la vie de cette pauvre petite cette demoiselle qui la persécute du matin au soir.
Il persécute une jeune femme célibataire. Et son chien également, le chien de cette jeune femme.
Indispensable le chien, souffre-douleur, ouais, il est là pour prendre des coups. Il passe toute la BD à être électrocuté, à recevoir des trucs sur la tête, il est noyé, il est brûlé, il a tout ce qu'on veut. Enfin, c'est vraiment le souffre-douleur, le martyr.
Nelson, c'est un strip quotidien et moi je trouve, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois sur cette antenne, que tu maîtrises magnifiquement bien cet exercice que l'on croyait réservé plutôt aux Américains. Pourquoi justement ce sont surtout les Américains qui pratiquent le strip ?
Je sais pas, c'est une tradition anglo-saxonne, c'est peut-être plus facile à pré-publier dans la presse. Je pense qu'il y a peu de dessinateurs qui en font en Europe un peu par dépit, parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps c'était réputé pour vendre très peu d'albums. Puis on a peut-être, je sais pas, une culture de gags en page ou carrément en album qui sont complètement inexistantes là-bas. Donc j'ai choisi un peu cette technique par élimination. Enfin, je me suis aperçu rapidement que c'était le format dans lequel j'étais le plus à l'aise, donc j'ai laissé tomber le reste.
Et c'est un exercice, j'imagine, assez difficile de trouver un gag par jour. Donc est-ce que tu as des problèmes d'inspiration de temps en temps ?
Ouais, comme n'importe qui qui cherche des gags. Des fois, je passe des jours et des jours, je suis tout grognon, je suis même insupportable pour mes proches, tout en cherchant mes gags. Mais je crois que c'est un problème inhérent à tous les humoristes ou les gens qui travaillent, tous les artistes finalement. Voilà. Artistes, non, c'est un peu prétentieux parce que je n'ai pas l'impression de faire de l'art, mais tous les gens qui sont supposés faire une livraison de trucs humoristiques, ben, fatalement, il y a un moment où je me dis, ben, je crois que j'ai tout dit, là, je ne trouverai plus jamais un gag.
Comment travailles-tu ? Est-ce que tu fais tes 5 gags dans les premiers jours de la semaine ou est-ce que tu fais vraiment un gag par jour ?
Non, en fait, je fais 6 par semaine. Je courbe le samedi. Je m'octroie le samedi de libre. Mais ouais, en effet, je commence lundi matin, ventre à terre, pied au plancher. J'essaie de d'enquiller le plus vite possible. Normalement, aux alentours de mercredi soir, jeudi, je suis dehors. J'ai ma semaine.
Christophe Bertschy, merci beaucoup et bravo encore pour Nelson.
Plaisir, merci à toi.
Sortant doucement de sa tombe, il va par les nuits les plus sombres, frappé dans son grand manteau noir. Dracula, Dracula, Dracula. Ses yeux lancent d'étranges flammes, ses dents sont pareilles à des lames. Il faut l'avoir vu pour le croire.
Maman!
Plus agile qu'un serpent, il s'introduit prestement dans la maison d'une jolie femme.
Bonjour, madame.
Pour la vide de son sang, dans le cou, il la mord de toute son âme. Dracula, Dracula, Dracula. Et lorsqu'il voit le jour qui pointe, desserrant soudain son étreinte, il part retrouver le néant. Dracula, Dracula, Dracula. Le soir, les maisons se verrouillent. Les gens, pour prier, s'agenouillent, guettant tous les bruits du dehors.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Dracula, Dracula, Dracula. Au moindre coup dans une armoire, on entend claquer les mâchoires et les chiens hurlent à la mort. On s'aperçoit tout à coup que les durs ont les genoux qui jouent soudain des castagnettes. Quant aux gendarmes, ils sont prêts à ne prendre que la poudre d'escampette.
Dites, brigadier, je fous le camp, j'ai trop peur.
Dracula, Dracula, Ma belle-mère, ça me déconcerte. Laisse toujours sa porte entrouverte. Et tu ne viens jamais chez moi. Oh non, elle me fait peur. Elle est trop vilaine. Ah ouais.
RVE sur 103.7.
Captivant vous propose ce soir une émission spéciale consacrée au thème d'Halloween dans la bande dessinée. Un thème qui n'inspire pas seulement les auteurs pour enfants, mais aussi ceux qui s'adressent à un public adulte. En France, la terreur ou l'horreur, sujet associé à l'imagerie d'Halloween, ont pourtant longtemps été difficiles à traiter. À cause de la tradition enfantine de la bande dessinée franco-belge et à cause de la fameuse loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Le problème en France est de concilier bande dessinée et public adulte. Elle vit France, maison d'édition fondée par Georges Bielek en 1970, trouvera la solution en publiant énormément de bandes dessinées italiennes, mêlant horreur et érotisme dans un format de poche et à destination du public de romans de gare. Ainsi, sexe et horreur seront intimement liés en France et feront les beaux jours de la censure pendant une vingtaine d'années. Éreinté par les multiples interdictions de publication dont sa maison d'édition fera l'objet, Georges Bielek jettera l'éponge en 1992 après un lent déclin. Aujourd'hui, la censure s'est adoucie. C'est ainsi qu'à côté des œuvres d'ambiance de Christophe Chabouté chez Vendouest, il existe chez Delcourt une collection de slashers à l'américaine, la collection Insomnie. Parmi les titres qu'elle propose, la série de Khaled et Denis est pleinement dans notre thème du jour puisqu'elle s'intitule « Comptine d'Halloween ». Une petite citrouille sourit dans le noir, fermée portes et fenêtres, c'est la nuit d'Halloween. Cette comptine résonne de manière lugubre dans les rues de Creeper Creek, bourgade terne de l'Amérique profonde. Des meurtres y sont commis. Tout le monde connaissait les victimes, car tout le monde se connaît à Creeper Creek. Mais il y a cette étrangère, une actrice, dit-on. Betsy Mahorn, coincée en ville après un accident de la route, assiste horrifiée aux événements. Elle a la sinistre impression de jouer dans un mauvais film d'horreur, mais les cadavres sont de chair et d'os, le sang est bien réel. Plongée en plein cauchemar, Betsy devient celle qu'elle a toujours été, une petite fille qui, toute seule, a peur du noir. En 1998, Olivier Boiscommun signe un album tout simplement intitulé Halloween, aux éditions Le Cycliste. Repris depuis par les humanoïdes associés, ce conte superbement dessiné en couleur directe nous invite à plonger avec le jeune Asphodel dans le grand livre de la nuit. Avec lui, nous errons dans la ville pour y chasser le mauvais esprit. Mais si au coin d'une rue nous rencontrons un fantôme, prenons le temps de faire un bout de chemin avec lui, nous le connaissons peut-être, et si nous sommes en proie à la mélancolie, il risque bien de nous faire sourire à nouveau à la vie. Si elle ne traite pas spécifiquement du thème d'Halloween, la série Le Chant des Striges de Corbeyran et Guérino chez Delcourt nous offre cependant une exploration de nos terreurs les plus mythiques et ancestrales. Car les Striges, de diaboliques créatures ailées, hantent notre univers depuis des siècles. Écoutons Richard Guérino, le dessinateur, nous expliquer que sa série est l'un des best-sellers de son éditeur.
Tout à fait. Une des séries, une des trois principales séries de chez Delcourt, de cette grande saga que nous avons prévue en trois cycles.
Trois cycles de six albums chacun ?
Tout à fait, six albums. Alors c'est une grande performance sur une quinzaine d'années en tout, mais je pense que ça valait le coup d'être patient et pour pouvoir construire cette histoire et amener ce thème des striges, des vampires sur un mode, comment dire, plus crédible peut-être que ce qui a pu être fait jusqu'ici sur ce thème depuis Dracula, par exemple.
de mille millions de mille chevaux.
Marc Dacier. En 2002 sortait chez Tonkam le premier manga d'horreur jamais publié en France, Spiral, réalisé par l'un des maîtres du genre au Japon, Junji Ito. Depuis, l'offre n'a cessé de se diversifier, touchant presque tous les éditeurs et s'adressant à tout type de public. Le manga d'horreur aujourd'hui, grâce à son inventivité et à son dynamisme, dame le pion à une BD occidentale qui a cessé depuis longtemps d'être gore. Il faut dire que la violence fait partie de l'univers des mangas. Souvent sadique et complaisante au regard de nos critères, les BD d'horreur de Kazuo Omezu, qui font fureur, ne montrent que corps éventrés, déchiquetés et ruissellement d'hémoglobine. Cette violence n'est pas propre à la BD. Certains auteurs de romans populaires sont allés très loin dans cette voie, notamment Norio et Futaro. Quant au film d'un Wakamatsu Koji, L'Embryon ou Les Anges Violets, il nous fait pénétrer dans une pièce close où un homme torture inlassablement une ou plusieurs femmes. De cette licence accordée aux fictions, les spécialistes japonais pensent qu'elle conjure la violence de la cité. De fait, le Japon continue à se prévaloir du taux de criminalité le plus faible des pays industrialisés, et Tokyo demeure la métropole la plus sûre du monde. Largement répercuté dans les médias, le cas de Tsutomu Miyazaki, 27 ans, reconnu coupable d'avoir tué et dépecé 4 fillettes en 1988 et 89, a pourtant relancé la controverse. Ce jeune déséquilibré possédait en effet 6000 cassettes vidéo pornographiques et une impressionnante collection de mangas du même acabit. Au Japon, le manga est un loisir de masse, très peu cher et accessible à absolument tout le monde. Il est donc peu étonnant de voir le genre horreur tenir une place assez conséquente dans la production totale de bande dessinée japonaise et rester florissant depuis les années 60. Ces mangas ont aussi bénéficié de la quasi-absence de censure au niveau de la violence au Japon. Ainsi, l'horreur a pu se développer et se diversifier dans ce pays à peu près comme n'importe quel autre genre. À tel point que de nombreux auteurs l'incorporent à plus ou moins haute dose dans leurs ouvrages. Un exemple frappant est Gen d'Hiroshima, manga en 10 volumes de Nakazawa qui raconte l'histoire d'un petit garçon survivant de la bombe atomique. La totalité du volume 2 et la fin du tome 1 sont consacrés à une description d'Hiroshima pendant et juste après que la bombe soit tombée. On y découvre des corps à la chair fondue, des hommes rongés vivants par les vers et d'autres visions cauchemardesques. Le tout retranscrit en détail par le dessin peu réaliste mais efficace de Nakazawa. Toute l'horreur de cette bombe est décrite crûment, directement et marque bien plus que si un voile pudique avait été déposé sur la scène. Autre exemple, beaucoup d'œuvres de Katsuhiro Otomo, et en particulier Domu et Akira, sont imprégnées de fantastique et d'horreur. Dans Domu, l'auteur joue avec le paranormal, le côté oppressant des grands ensembles d'immeubles pour créer une ambiance inquiétante. Dans Akira, les mutations grotesques de Tetsuo relèvent de l'horreur pure et simple. La boucle est bouclée lorsque Junko Mizuno rapproche zombies et contes de fées dans son Cinderella. La peur et l'horreur se déclinent donc aussi hors du cadre strict du genre, preuve de sa bonne santé et de son enracinement dans le manga. Mais la grande originalité de cette bande dessinée, c'est qu'elle n'est pas destinée qu'aux hommes, comme le sont ses homologues occidentaux. Au contraire, de nombreux auteurs phares du genre, comme Junji Ito, destinent leur bande dessinée aux jeunes filles. C'est le kawaii manga qui joue volontiers sur le dégoût des jeunes filles pour tout ce qui est insectes, limaces, serpents, mais aussi sur les sentiments amoureux et d'autres choses plus ancrées dans le monde contemporain, comme la contraception ou le maquillage.
Quel genre de ville tu voudrais ?
Une grande ville ?
Oui, un endroit où il y ait la mer.
Oh, t'en as de la chance!
Mais je pars en apprentissage. Pour devenir une vraie sorcière, je dois pouvoir tenir un an loin de la maison.
Tu tiendras s'il y a des garçons sympas.
Kiki, c'est l'heure.
J'arrive!
C'est sur ce balai que tu veux partir?
Oui, et je l'ai fabriqué moi-même ce matin.
Elle n'a pas fait beaucoup de progrès.
On peut savoir où on va ?
Vers le sud. Je veux voir la mer. Gigi, tu peux allumer la radio ? J'ose pas lâcher le balai. Dépêche-toi.
Ni
débutes, ça se voit.
Oui, je viens de prendre mon envol, je suis nouvelle.
Peux-tu éteindre cette musique, s'il te plaît? J'aime rester concentrée quand je vole.
Ah.
Ce soir, Halloween nous offre l'occasion d'évoquer dans Captivant la bande dessinée d'horreur, un genre florissant aux États-Unis au début des années 50 grâce à un dénommé William Gaines, le patron des fameux EC Comics. William Gaines a hérité en 1947 d'une maison d'édition créée par son père Max Gaines 2 ans plus tôt et baptisée Educational Comics. Lorsqu'en 1950, il lance 3 magazines d'horreur, The Haunt of Fear, The Vault of Horror et The Crypt of Terror, les Educational Comics deviennent Entertaining Comics, changeant de raison sociale en même temps que de vocation, mais gardant le sigle EC sur leur couverture. La popularité des EC Comics est vite considérable. Ils initient véritablement une nouvelle tendance et font progresser l'ensemble des comic books vers un niveau de qualité supérieur. Aujourd'hui encore, ils sont globalement considérés comme l'un des sommets de la bande dessinée américaine. Leur succès commercial est d'abord la conséquence de l'horreur et de la violence qui emplissent leurs pages, mais bientôt, rattrapés et même dépassés par leurs concurrents dans une surenchère de sang répandu, de membres mutilés et de monstres ignobles, leur notoriété devient le fait d'une excellence des dessins et des textes que personne ne saura égaler. Parmi les auteurs les plus brillants, citons Johnny Craig, spécialiste des histoires de couple dont les disputes se terminent par une débauche de sang, Jack Davis, peintre des excès de la classe moyenne américaine, et Graham Ingalls, qui signe ses planches Ghastly, l'horrible.
Un petit coup de délagage. Cet hiver, on aura besoin de bonnes bûches. Allez, viens ici.
En 1954 sort Seduction of the Innocent, un livre du psychanalyste new-yorkais Frederick Wertham qui rend les comics responsables de la montée de la délinquance juvénile. William Gaines et d'autres éditeurs sont convoqués par le sous-comité sénatorial sur la délinquance juvénile au printemps 1954 afin qu'ils s'expliquent sur la nature de leurs publications et sur leurs effets sur la jeunesse. Ce sera le début de la fin pour l'industrie du comic d'horreur aux États-Unis. En 1955, les principaux éditeurs décident de se créer un code de conduite, le Comics Code Authority. Celui-ci, chargé de contrôler le contenu des publications et d'éviter toute déviance, met un coup d'arrêt à la bande dessinée d'horreur américaine, mais va indirectement donner naissance à la célébrissime revue satirique Mad. Et puis, dès la fin des années 50, de nouveaux magazines publiés en noir et blanc et intitulés Creepy, Eerie ou Vampirella remettent au goût du jour loups-garous, vampires et ghouls. Pour un public privé de monstres depuis 54, c'est un retour aux sources sous la plume des plus grands artistes de la EC Comics, auxquels se joignent bientôt Al Williamson, Steve Ditko, Gene Colan et d'autres artistes venus des comic books. Les scénarios, dus pour la plupart à Archie Goodwin, étaient construits sur une formule unique qui voulait que le monstre révélé dans le cours de l'histoire ne soit pas finalement le plus dangereux et que l'horreur apparaisse un peu plus loin qu'on ne l'attendait, un peu plus fort qu'on ne le pensait. Dans les années 80, un comics intitulé Halloween Horror reprend des histoires datant d'avant le Comics Code Authority. La fête des morts inspire beaucoup les auteurs de bandes dessinées américains. C'est ainsi qu'en 1999, Jeff Loeb et Tim Sale signent un mémorable Batman The Long Halloween avant que les éditions Chaos Comics ne proposent une suite dessinée du célèbre film de John Carpenter Halloween. Autre exemple, dérivé de la série télé Buffy et les vampires, le Buffy Comics numéro 5 signé Bennett et Watson est consacré à Halloween. En fait, chaque année, la fin octobre est l'occasion pour les éditeurs américains de proposer des numéros spéciaux Halloween. C'est notamment le cas pour la version comics des Simpsons de Matt Groening.
Maud Flanders, nous les vivants te supplions de te manifester.
Ned, je suis revenu, embrasse-moi. Cool le mec, c'est moi, Bart Simpson. Quoi, mais qu'est-ce que vous regardez?
Maud, tu es aussi belle que le jour où je t'ai enterrée.
C'est la fin de ce numéro spécial de Captivant consacré à Halloween et réalisé par Christian. On se quitte comme d'habitude avec quelques notes de jazz. Roland Kirk, Boogeyman Song, la chanson du croque-mitaine. Je vous souhaite une nuit terrifiante, pleine de sorcières, de fantômes et de vampires. Et je vous dis à la semaine prochaine, peut-être.
Thank you.
Ah.